Gracias por descargar este podcast de Hey Festival. Para más información sobre nuestros festivales internacionales y sobre cómo acceder a nuestro archivo, por favor visite heyfestival.org. Gracias.
Bonjour. Buenos días. Estamos aquí. Muchas gracias por haber venido. Vamos a hablar de este autor que es muy interesante, que en Francia está teniendo muchísimo éxito. Sus novelas se han publicado casi todas en Gallimard. La más reciente se llama Estoy mejor, en francés se llama Je vais mieux. También otra de sus novelas que tuvo muchísimo éxito, no solamente en Francia, sino en varios países, llamada La delicadeza, publicada en español en Sex Barral, fue, bueno, la base de una película con el mismo título, en la que actuó Audrey Tautou, no sé si se acuerdan de ella, que es la de Amélie Poulain, que en francés tiene un título mucho más largo, pero bueno, nosotros lo conocemos como Amélie. Vamos a hablar ahora de las novelas de este autor y un tema que es un tema muy interesante, que se ha tratado mucho, Roberto Bolaño habló mucho de ese tema. Creo que habló de una manera que ya no se podía hablar más, pero esta novela, la de Estoy mejor, habla de eso y que es el tema de la enfermedad. En esta novela, el narrador es un arquitecto que está cerca de jubilarse, bueno, no, tiene alrededor de 40 años, todavía no se va a jubilar, 40 y tantos, ¿es esa? 40... La cuarentena y
sí,
la
oui.
Okay. Y de repente tiene un dolor de espalda impresionante, no sabe qué es y empieza con toda esta fantasía de la midlife crisis, me voy a morir, qué voy a hacer. Todo empieza a desmoronarse y bueno, pues nos pone como en una especie de misterio y ritmo frenético por saber si verdaderamente está viviendo sus últimos días este personaje, ¿no? La verdad es que está muy bien descrito, es impresionante cuando uno ve la edad que tiene David Fuenquinos, que haya podido contar de esa manera y en primera persona la crisis de alguien que está pasando por eso, porque es muy, muy creíble. Yo que estoy acostumbrada a leer novelas y a descubrir y a buscar dónde está la falla, dónde está la inverosimilitud, debo confesar que verdaderamente me caí en la trampa. O sea, pensé que verdaderamente era un autor con esa experiencia. Así que, bueno, felicidades, David Fuenquinos. Me gustaría que ahora hablaras de la enfermedad como tema y por qué quisiste tratarla.
Muchas gracias. Bon, moi je suis très content d'être là. Bon, j'ai appris l'espagnol avant, mais j'ai oublié. Donc, je dis bonjour au traducteur. Hier, j'étais dans une soirée, c'était très sympathique. Et j'ai rencontré des Colombiens. Et je leur ai promis de dire, avant toute chose, a mí me gustó mucho Carlos Bebes, la fantástica. Alors, ce livre-là, Je vais mieux, c'est mon 12e roman. Pour moi, ce n'est pas vraiment un livre sur la maladie au sens où on peut l'entendre. C'est vraiment une comédie sur l'idée d'un homme qui a mal au dos et qui va devoir mener une enquête dans sa propre vie. Pour savoir pourquoi il a mal au dos. C'est un thème qui m'excite toujours beaucoup. Le thème de la nécessité d'être à l'écoute de son corps, que le corps est capable de nous dire des choses. Quand j'avais écrit le livre La délicatesse, c'était l'histoire d'une femme qui vivait un drame terrible et qui s'enfermait complètement jusqu'au moment où son corps se réveillait d'une manière subite et incompréhensible. Et elle embrassait le premier homme qui passait par là. C'est un Suédois complètement improbable. Oui, exotico, c'est bien. Et c'est quelque chose qu'elle n'avait pas du tout ni pensé, ni maîtrisé. C'était une pulsion de survie de son corps. Et je me suis rendu compte que ce livre-là, Je vais mieux, reprend Estoy mucho mejor, reprend finalement. C'est super parce qu'en même temps j'écoute en espagnol, alors je travaille l'espagnol en même temps.
Pardon ? Pourquoi ?
Oui, mais parce que je dois attendre la traduction. Ah, je peux parler plus vite ? Ah, super, bah, merci de me le dire. Ah, parce que moi, en plus, j'adore parler très vite et puis en plus, j'emploie des mots très compliqués. Ah oui, non, je suis hyper bavard. Ah, d'accord, parce que moi, j'écoutais en même temps. D'accord. Mais j'adorais, hein. Mais c'est vrai que du coup, j'écoutais à chaque fois. Merci hein, pour cette assistance technique. Donc voilà, en fait, c'est... J'adorais cette idée vraiment très excitante. Alors évidemment, vous avez complètement raison, Guadeloupe, c'est-à-dire que dans un premier temps, je traite la maladie. Et moi, j'écris des livres de fiction. Je suis vraiment un auteur qui aime raconter des histoires, inventer des personnages. Mais voilà, j'écris pas ma propre vie. Mais pour la première fois, il y a des échos avec des choses que j'ai pu vivre, puisque j'ai été très gravement malade à l'âge de 16 ans. J'ai été opéré du cœur et c'est vrai que c'est un événement qui a bouleversé, qui a modifié complètement ma vie, qui m'a après... propulsé vers la musique, vers la peinture, vers l'écriture, a modifié beaucoup de choses chez moi. Et quelque part, dans cette épopée de ce personnage qui a mal au dos, j'ai retranscrit pour la première fois des choses que j'avais envie de raconter sur l'inquiétude de la maladie, sur le fait d'enchaîner les rendez-vous médicaux. Donc c'est vrai que la première partie du livre, je ne fais pas l'économie du tout de la possibilité que cet homme-là ait quelque chose de grave. Et puis... Sans dévoiler l'histoire, il va se rendre compte assez rapidement que, comme ça peut arriver souvent, le mal de dos est lié à finalement à quelque chose de plus, davantage de l'ordre psychosomatique. Et donc il va se rendre compte que finalement il a beaucoup de choses à régler dans sa propre vie, beaucoup de problèmes à dénouer. C'est quelqu'un qui pensait mener plutôt une vie confortable, paisible, et au milieu de la quarantaine, il n'est pas vraiment capable d'ouvrir les yeux et de faire un bilan de sa propre vie. Il y a des gens qui ont cette capacité de se remettre en question et de se dire, voilà, à un moment donné, qu'est-ce que j'ai réussi, qu'est-ce que j'ai raté. Lui, finalement, il en est incapable. Mais souvent, mes personnages voyagent dans l'incapacité. Et grâce, finalement, à cette manifestation, cette douleur qui est inexplicable, il va se rendre compte que, bon, ben voilà, il y a des choses qu'il a ratées, il va faire une sorte de panorama de sa vie, et alors qu'il pensait que sa vie était plutôt réussie, il va se rendre compte qu'il a des problèmes dans sa vie professionnelle, il a des problèmes dans son couple, il a finalement des choses qu'il n'a pas réussi vraiment à partager avec ses enfants, il a des problèmes impressionnants avec ses parents, ça c'est un peu autobiographique, et avec tout le monde, et avec son dentiste aussi, ça aussi c'est un peu autobiographique. Et finalement, ça va être, alors que voilà, on part d'un sujet sérieux, ça va se transformer en épopée un peu risible d'un homme qui va traverser sa vie et enquêter. Et il va comprendre finalement. Il va comprendre ce qu'il a raté.
Pues es que en realidad no son temas fáciles los que trata David Fuentes. ¿Prefieren que hable yo en español o prefieren que hable en francés? Porque no sé, ¿qué prefieren? Español está bien, ¿verdad? Bueno, uno en uno está el duelo de una mujer que estaba viviendo el amor, se acababa de casar, estaba feliz y pierde de repente al marido. En este, como lo acaba de decir, bueno, todo empieza a caerse en la vida de este hombre y da la impresión que a David Fuenquinós le interesan muchísimo los personajes que son como, en francés dirían, de raté, o que no tienen éxito, los fracasados, ¿no? ¿Por qué le interesan tanto este tipo de personajes en sus
novelas? Bueno, alors ça, c'est pas du tout autobiographique, hein.
No, para nada, eso sí que no es para nada, tiene muchísimo éxito.
En fait, moi je dirais pas qu'ils sont ratés. Ils sont toujours en retard sur la compréhension d'eux-mêmes. Ils ont toujours une forme de décalage par rapport à ce qu'ils devraient être. Il y a une expression dans le livre à propos de ce personnage. Je dis à un moment donné qu'il est sur le paillasson de sa propre vie. Et finalement, il doit essayer d'intégrer. J'ai l'impression qu'on a tous une place et que la difficulté et l'enjeu majeur de notre vie, c'est de trouver où on doit être. Donc, c'est plus ça. C'est quelqu'un qui va se rendre compte que finalement, il est passé à côté de beaucoup de choses. Par exemple, il a cette idée que souvent on peut se dire, tiens, j'aurais dû faire ci ou j'aurais dû faire autrement. Lui, il est devenu architecte, finalement un architecte un peu minable, ou en tout cas soumis à la violence et à la brutalité du monde du travail. C'est quelqu'un qui n'a pas les armes finalement pour se battre, peut-être pour lutter pour sa position. Il se fait complètement écraser par une sorte de psychopathe qui est un collègue extrêmement malveillant à son égard. Et à un moment donné, d'ailleurs, quand il commence à mener l'enquête sur le mal de dos, il se dit, mais c'est forcément lui le coupable. Il est en train de me pressuriser en permanence. Et donc, notre héros va enfin réagir. Finalement, la douleur modifie son comportement. Le côté insupportable de cette douleur va faire en sorte... Et c'est ce qui est plutôt drôle dans le livre, c'est que cet homme va subitement agir d'une manière démesurée dans tous les sens. Il va essayer de régler les problèmes, mais d'une manière subite. Et donc, il va casser la gueule de ce collègue. Et d'ailleurs, quand vous avez mal au dos, parfois, il suffit de regarder autour de vous et le coupable est peut-être quelque part. Et bon, il faut agir, il faut peut-être... Et il va se rendre compte que finalement, ça fait du bien, ça soulage. Ah, ça soulage, mais malheureusement, le soulagement est momentané. Et donc, lui, il est dans une succession comme ça de petites choses qu'il doit régler, de frustrations. C'est plus ce type de personnage qui m'intéresse. Les personnages qui sont en train de courir après leur vie.
Bueno, 40 años para nosotros, yo tengo 40, es todavía una edad muy juvenil, ¿no? Uno tiene la impresión de que todavía se pueden arreglar muchísimas cosas, que no se ha perdido todo, ¿no? Este hombre parece realmente mayor, parece que ya hubiera pues pasado la mayoría de todas sus posibilidades. ¿Piensas que 40 años es una edad ya en la que uno está caput?
Oui. Ah oui, oui, capote. Oui, c'est le cas. J'avais pas pensé à ce mot-là, mais maintenant ça me paraît assez évident, quoi. Mais bon, c'est un livre plutôt, optimiste et qui pour moi me permet d'aborder beaucoup de thèmes qui m'intéressent finalement. Il y a le départ des enfants. C'est quelqu'un qui vit très mal finalement le départ de ses enfants, leur entrée dans l'âge adulte. On parle souvent de soulagement des parents, d'être un peu libéré de la présence de leurs enfants. Et il va se rendre compte qu'il n'a pas été capable d'exprimer ça. Il va se rendre compte que finalement, son père le rabaisse en permanence. Et il dit à un moment donné que s'il avait fait partie des Beatles, eh ben, son père aurait passé son temps à lui parler des Rolling Stones. Et en même temps, il s'intéresse, ça ferait comme s'il s'intéressait à la musique. Mais il y a parfois des parents qui sont comme ça, d'une malveillance un peu étrange, quoi. Et donc, il va d'ailleurs, à un moment donné, exploser, dire tout ce qu'il retient en lui, dire la vérité. Parce qu'il va aussi tenter la possibilité de la vérité. C'est-à-dire qu'il se dit que si j'ai mal au dos, s'il a mal au dos, c'est qu'il a retenu trop de choses en lui. Il n'a pas été capable de dire assez les choses. Et donc subitement, dans une explosion complètement démente de vérité, il va aller voir ses parents, il va aller voir plein de gens, et il va leur dire tout ce qu'il pense. Bon, Par exemple, il a l'ami de son, la femme de son meilleur ami, le meilleur ami est dentiste, et il a une femme qui peint des tableaux vraiment hideux. Et subitement, alors que ça fait 20 ans qu'il lui dit qu'elle est formidable, il va lui avouer que, bah, que c'est très mauvais ce qu'elle peint. Et qu'à un moment donné, il faut lui dire. Et il va se rendre compte que... Vous avez cette sensation de se libérer complètement, de dire tout ce qu'on pense. Et ça, non, ça marche pas du tout. Parce que ça crée beaucoup plus de problèmes que ça soulage. Hein. Moi, je vous conseille de continuer à mentir. Hein. Dites à vos amis qu'ils sont formidables, que vous les aimez... qui sont très intelligents. Et donc, c'est une impasse de se plonger dans cette vérité. Ils sont assez mignons, d'ailleurs, ce couple d'amis, le dentiste et la peintre, parce que c'est un couple qui traverse peut-être une sorte de crise, hein, comme tous les couples, sûrement. Et ils se retrouvent à héberger notre héros, qui a mal au dos. Ils se retrouvent à l'héberger chez eux. Et en fait, ça leur fait du bien. Je pense que quand vous avez un problème de couple, la meilleure façon d'arranger les choses, c'est d'héberger un ami un peu dépressif. Je trouve qu'ils solidifient finalement leur... En fait, ça fait du bien, quoi. N'hésitez pas à trouver quelqu'un autour de vous qui est un peu déprimé, quoi.
Bueno, cuando uno tiene problemas en general, ocuparse de los demás es algo... Es algo que nos saca de nosotros mismos, ¿no? En la sociedad francesa, que conozco bastante bien, hay como una represión constante en la que la gente efectivamente tiene muchos dolores de espalda. Y en Cuba lo que dicen, no sé si aquí se dice, pero en Cuba dicen que cuando uno tiene un dolor de espalda es que tiene un pensamiento atorado. ¿Se dice aquí eso? Allá hay muchos pensamientos... Voilà. Muchos pensamientos atorados, ¿no? O sea, la gente piensa
¿A Cuba?
No, en Francia. En France, les gens... A Cuba, on dit que quand on a mal au dos...
Oui, c'est ça, c'est à Cuba.
Oui.
Mais aller à Cuba, c'est bien.
Mais je parlais aussi de la France, où les gens ne font que produire des pensées, et puis c'est pas forcément des pensées créatives.
Oui, je vous avais raison, on a beaucoup plus mal au dos en Europe. C'est vrai. À part notre président qui... qui est très, très heureux, quoi. Mais... Et en même temps, moi, je trouve que... Tout à l'heure, je disais qu'il y avait des thèmes que j'avais envie d'aborder. Par exemple, lui, il est en, lui-même est en difficulté avec sa propre femme. Pour moi, ce n'est pas du tout... D'ailleurs, je n'aime pas traiter du tout l'usure du couple. Parce que je trouve ça très beau, la tendresse et ce qui peut se dégager de l'amour au bout de plusieurs années. Ce n'est pas du tout un livre, ce n'est pas du tout un thème que j'aborde d'une manière dramatique, quoi. Mais finalement, alors je veux pas trop raconter le livre, mais il se trouve qu'il va, ce mal de dos va tellement modifier sa propre vie, ça va être un enchaînement, une succession permanente de catastrophes ou de remises en question, et il va en arriver à se séparer. Et ça, c'est un thème qui m'a intéressé, c'est l'idée peut-être très contemporaine, très moderne que. Comme maintenant, nous vivons peut-être plusieurs vies, il y a une sorte de phase amoureuse. Il peut arriver qu'on continue à vivre avec des fantômes du passé, comme si certaines histoires étaient inachevées. Il y a quelque chose de l'ordre de l'inachevé parfois, parce que les histoires se délitent, les histoires s'abîment ou s'essoufflent progressivement. Et lui, c'est ce qu'il ressent finalement. Par exemple, parmi les choses qui restent dans son corps, il y a l'idée que son histoire n'a pas de mot fin. Son histoire n'a pas été terminée. Et donc, il va, parmi toutes les choses qu'il va faire, il va retourner chez sa femme, un an après leur séparation, et il va lui dire, il nous manque une vraie bonne scène de rupture. Et donc, un an après leur séparation, ils vont enfin rompre. Et ils vont tout casser dans la maison. Et ça fait du bien. Et pourquoi je raconte ça? Parce que là, vous avez raison. C'est qu'il faut que le corps s'exprime. Il faut que la matière vive. Et quelque part, l'excès de pensée, l'excès de délicatesse, l'excès de... L'excès peut-être de, comment dire, de diplomatie dans les rapports fait qu'on cumule des... une succession de sensations inachevées. Et donc, il avait besoin de mettre un terme à ça.
Pero bueno, pensaba también en una entrevista que leí, David Fuenquinos dice que uno de sus autores favoritos es Albert Cohen y uno de sus libros favoritos es Belle du Seigneur, Bella del Señor, que es un libro que si no lo han leído les recomiendo, pero ya que vayan a correr.
No.
Corran y lo
compren. No. En fait, c'est marqué sur Wikipédia. Mais j'aime bien Albert Cohen, mais c'est pas mon livre préféré.
No, lo decía un artículo, yo lo leí no en la Wikipedia, sino en Libération.
Quoi?
En Libération, je l'ai lu à Libération, pas à la Wikipédia.
Ah mais oui, bon, mais c'est une vieille interview.
Ok.
Ouais, peut-être, ouais.
Pero ahí, no sé si, est-ce que c'est vrai que vous l'avez lu et c'est vrai que vous aimez bien ou pas? J'allais parler de Solal, le personnage de Belle du Seigneur, qui est justement en train de tout perdre au moment où le livre... C'est un personnage qui me fait penser au vôtre, en réalité.
C'est gentil, parce que là, vous avez raison. Je disais que ce n'était pas mon livre préféré, parce que ça fait partie des auteurs que j'aime bien. Et en tout cas, moi, disons que ce sont des livres très, très différents, mais c'est quelqu'un qui m'a donné le goût en le lisant. Le goût de la fantaisie, le goût de l'écriture réjouissante, le côté assez chevaleresque aussi de ces personnages. Il y a des actions, des situations, c'est assez flamboyant. Et donc moi, c'est la version un peu triste de ces personnages, mais c'est quelqu'un qui a éveillé mon imaginaire. De toute façon, quand on écrit, moi j'ai commencé à écrire d'une manière très improbable. Au début, j'écrivais beaucoup de lettres, j'écrivais des lettres d'amour... J'ai eu beaucoup d'échecs, hein. Et après j'ai commencé à écrire des textes courts et puis des nouvelles et j'ai eu des auteurs qui ont été importants. Vous parlez de Houellebecq, vous parlez de Albert Cohen, il y a aussi Philip Ross, Milan Kundera, des écrivains qui ont été très qui ont formé finalement mon énergie littéraire.
Oui, moi j'ai trouvé les traces de Albert Cohen, mais aussi de Philip Roth, comme vous dites. Por esta manera de ver como de fijarse en lo cotidiano, en todos los actos y los hechos cotidianos que verdaderamente van moldeando la realidad y nuestra manera de interpretarlos,
oui.
¿No?
Oui, c'est vrai, et c'est surtout un livre sur le corps. Je vais mieux, c'est vraiment un livre sur le corps aussi, sur la nécessité d'écouter son corps et sur l'idée que et finalement, c'est un livre où c'est l'histoire d'un personnage qui va se retrouver en conversation avec son propre corps. À la fois dans une lutte au début, et puis après dans une tentative de l'apprivoiser. Et un de mes livres préférés, c'est le livre Un homme, en anglais c'est Everyman, de Philip Ross. Et c'est l'histoire d'un homme à travers ses maladies, à travers son rapport au corps, à travers la sexualité. Et donc, c'est quelque chose qui m'intéresse profondément dans ce livre. Évidemment... j'en parle avec légèreté de toute l'épopée de ce personnage, mais à plusieurs égards, c'est traversé par des questions extrêmement profondes et existentielles, de justement essayer d'apprivoiser son corps et comment finalement ne pas le subir. J'ai voulu aussi m'amuser avec... le parcours un peu comme ça du combattant, de celui qui a mal au dos ou du rapport au corps, donc il va essayer beaucoup de choses, hein, magnétiseuse, il va passer beaucoup d'IRM et puis d'autres étapes qu'on va pas développer, mais il va finalement propulser son corps dans de nombreuses expériences.
Bueno, me hace pensar también en estos personajes que viven de repente un final un poco caótico. Otro personaje totalmente distinto en el cual se interesó David Fuenquinos, que no era para nada un raté, sino todo lo contrario, que fue John Lennon. David Fuenquinos es músico también, jazzista, y me parecía súper interesante preguntarle por qué decidió escribir sobre John Lennon. John Lennon es un personaje, creo que se ha ahogado, el hombre se ha ahogado detrás del mito, ¿no? Y el mito es mucho menos querible en realidad que el hombre. siempre es así. Pero además me gustaría preguntarle a él, que es fanático de los Beatles por lo que veo, ¿qué es lo que piensa que hace que perduren los Beatles mientras todo lo demás va pasando? Eso es algo que siempre tenía ganas de preguntarle a alguien especializado en el tema. No sé si quieres contestarme.
Oui, non, mais c'est de l'ordre de la magie du son, la magie des compositions. Il y a aussi un message qui est extrêmement d'actualité. J'ai dit dans une interview il n'y a pas très longtemps, parce que c'est un livre qui vient de sortir en Espagne, et là aussi il est présent en Colombie, c'est un livre très différent de mes autres romans.
C'est un livre Alfaguara,
qui a été, c'est ça? Oui, c'est un livre qui a été important pour moi, parce que c'est une véritable biographie sur John Lennon. Et c'est très particulier d'écrire une biographie sur quelqu'un... Enfin, il y a déjà eu beaucoup de livres, les gens ont l'impression forcément de le connaître, et puis c'est très risqué par rapport à tous les psychopathes fans des Beatles. J'aurais pu vraiment avoir de gros problèmes. Mais finalement, le livre a été très, très respecté, parce que je suis vraiment quelqu'un qui a beaucoup, beaucoup travaillé et qui a essayé de trouver une particularité dans l'écriture de cette biographie, c'est qu'elle est écrite à la première personne. C'est comme si John Lennon racontait lui-même sa propre vie.
¿Cómo se llama? Sesiones de psicoanálisis.
Oui,
entonces,
mais c'est
John
plus
Lennon
un...
contando su vida.
Pour moi, les séances, ce sont plus un prétexte. C'est pas un livre psychanalytique, ce sont plus un prétexte pour que John Lennon raconte sa vie. Et moi, j'ai pris ce personnage comme un personnage de roman. J'étais fasciné par son enfance. Comment on se reconstruit après une enfance extrêmement brutale, traversée par beaucoup de souffrances, de violences. Et j'ai essayé d'être au plus proche de la vérité de John Lennon. C'est-à-dire que c'est un homme extrêmement paradoxal qui a été tout et le contraire de tout. C'est quelqu'un qui effectivement est connu pour ses messages pour la paix, c'est un grand pacifiste. Et d'ailleurs, vous me demandez pourquoi il est encore présent, pourquoi leur musique est encore présente, c'est parce que ce qu'il véhiculait est toujours dans l'air du temps. J'ai dit dans une interview il n'y a pas très longtemps en Espagne que John Lennon aurait fait partie du mouvement des indignés s'il était encore là. Tout ce qu'on peut voir de révolte politique était extrêmement présent dans son discours. C'est la première grande personnalité, la première grande star mondiale à avoir mis sa notoriété au service du pacifisme. C'est quelqu'un qui a marqué l'histoire au-delà de la musique. Et moi, dans mon excitation totale dans l'idée d'écrire un livre sur lui, j'étais vraiment passionné par beaucoup de faits dans sa vie. Tout à l'heure, on parlait de Belle du Seigneur. Dans la vie de John Lennon, il y a une histoire d'amour quand même qui est très, très impressionnante. L'idée que de rencontrer subitement une femme et de décider de ne former plus qu'une seule personne avec elle, une sorte de fusion totalitaire, passionnelle, qui a rendu fou tout le monde et les autres Beatles. Mais j'avais envie de raconter, comme un roman, l'histoire d'amour avec Yoko Ono. Donc l'enfance, la célébrité, les souffrances, la solitude... Comment, évidemment, les derniers mois et son assassinat. Et j'étais toujours obsédé par l'idée d'écrire un livre sur John Lennon et j'ai mis du temps à trouver comment l'écrire. Mon prochain livre qui sort en France, c'est aussi un livre sur une personnalité qui me fascine, qui n'est pas du tout connue, contrairement à John Lennon, c'est une peintre allemande. Qui est morte à Auschwitz en 1943, à l'âge de 26 ans, alors qu'elle était enceinte. Un livre extrêmement difficile, hein. Pour moi, ça a été très, très, très long et très, très dur d'écrire ce livre. Et c'est une peintre. Quand j'ai découvert son œuvre, il y a 8 ans, j'ai été complètement ébloui, fasciné par son travail. Et elle a laissé une œuvre, elle s'appelle Charlotte Salomon, elle a laissé une œuvre picturale d'une beauté... rare. Et donc moi j'aime bien l'idée que j'ai écrit des romans comme La Délicatesse ou Je vais mieux, qui sont vraiment des romans où j'adore raconter des histoires, mais pour la seconde fois comme ça faire des hors-pistes de mon imagination, des hors-pistes de ma façon de faire des romans. Ça a été très important pour moi, donc je l'ai fait deux fois, une fois avec John Lennon et maintenant avec ce livre qui va paraître en France. Et si vous avez du temps, regardez sur Google Charlotte Salomon. Okay. C'est vraiment magique.
Ayer en una entrevista con Peter Florence, John Boyle contó, cosa que me dejó absolutamente impresionada, que los primeros borradores de sus manuscritos los escribía en 3 semanas, 1 mes, o sea, de una novela. Bueno, tú tienes 39 años y tienes 12 novelas publicadas. Me gustaría saber cuál es tu procedimiento de escritura, cómo tratas un manuscrito y después cuánto tiempo le das para la corrección, si haces un premier jet que es así muy, con un impulso muy veloz. Es impresionante realmente el número de novelas que ha publicado David Fuenquinos y que la verdad sí se siente un oficio en ellas.
Oui, en fait, le rapport au temps est très différent chez chaque écrivain. Moi, je sais que je suis dans l'obsession permanente. Je travaille tout le temps. J'ai travaillé ce matin dans des conditions certes formidables au bord de la piscine, mais j'ai l'impression que quand on est dans un roman, on est tout le temps dans un roman, même quand on n'est pas dans le roman, même quand on n'écrit pas. Il y a quelque chose de l'ordre du souterrain qui est permanent. Et donc moi, c'est vrai que j'ai écrit beaucoup. Et j'ai fait d'autres choses aussi, j'ai des pièces de théâtre qui ont été jouées, j'ai réalisé un film. Là, c'était une énergie très très forte parce que quand on est écrivain, c'est vraiment solitaire. Là, ça a été une expérience avec 50 personnes et puis c'était très impressionnant de faire du cinéma. J'ai fait le film La Délicatesse avec Audrey Tautou, tu l'as rappelé tout à l'heure. Et là, je viens de finir mon prochain roman et je suis en train d'écrire le scénario de Je vais mieux, qui va devenir un film aussi. Et bizarrement, j'ai quelque chose de l'ordre de la frénésie, quoi. Alors, c'est épuisant. Hein, je pense que c'est aussi assez épuisant de vivre avec moi. Mais ça ne s'arrête jamais. Et je suis en boulimie, enfin en nécessité permanente. Et j'aimerais bien arrêter. Mon but, je rêve de faire une pause.
Comme John Lennon qui hizo una pausa.
Oui, voilà, c'est ça.
5 ans.
John Lennon, à l'âge de 35 ans, oui, mais John Lennon, entre l'âge de 16 ans et 35 ans, il a fait 10 fois le tour du monde, c'est des vies. C'est vrai qu'il s'arrête à ce moment donné et il prend le temps de ne rien faire.
Et
il recrée le désir. Oui, mais moi, je suis pas dans le manque de désir. Je suis vraiment, j'ai encore envie d'être plongé dans mes projets et dans l'écriture, mais j'ai bon espoir d'arrêter. Mais bon, le problème c'est que je serai plus invité après à Cartagena, quoi.
Pero esta bulimia de la que hablas tendrá que ver con esta experiencia de haber estado muy cerca de la muerte o de esa posibilidad, ¿crees?
En fait, pardon, parce que j'ai l'impression de comprendre l'espagnol, mais non. Oui. Oui, en fait, c'est vrai que je n'ai pas pensé, mais là, tu as complètement raison. C'est-à-dire que cette frénésie de vie, elle est liée à une énergie de survivant. C'est vrai que moi, j'ai vécu pratiquement 1 an à l'hôpital, et ce qui a changé complètement ma vie et mon énergie. Et j'ai eu une expérience de frontière avec la mort. C'est ce qui d'ailleurs, je me rends compte aussi, crée mon énergie. On me dit souvent que mes livres sont optimistes ou il y a quelque chose de l'ordre du positif. Enfin, je suis plutôt positif. Je pense que j'ai une énergie de celui qui a un peu rescapé, quoi, de tout ça.
La Feria de Guadalajara del año pasado, que acaba de ocurrir en noviembre, el país invitado era Israel. Y se habló mucho de la literatura judía y de la literatura justo de estos sobrevivientes, ¿no? Sabemos cuando hay como un impulso bulímico en justo los autores que mencionamos. O sea, en Philip Roth, vean por favor cuántas novelas tiene publicadas, ¿no? Por mencionar uno, pero se habló mucho de esto y había gente que decía que existía una literatura judía y que no importaba de qué origen fuera uno y había si era de Israel o si era de Nueva York. Y había gente que decía que no, que eso era una tontería. Me gustaría saber tu opinión, David.
Uh, Je me sens pas vraiment concerné par moi. Je ne suis pas du tout. Enfin, j'ai pas du tout. C'est étonnant d'ailleurs que tu me parles de ça parce que ça ne fait pas partie de ma vie. Mais d'une partie de ma famille, j'ai des origines juives, mais je suis ni pratiquant ni croyant. C'est quelque chose que je connais peu. Donc par rapport à cette énergie de survivant, par rapport à peut-être, je pense que toutes les civilisations, tous les pays finalement sont construits sur des cendres, hein, sur des drames. Je ne pense pas que ça soit spécialement.
Mais
peut-être que peut-être l'humour peut-être. L'humour. Parce que les premiers livres de Philip Roth sont portés par une. Ou Woody Allen, en fait, il y a un humour qu'on considère comme un humour juif new-yorkais, parfois, qui sont portés par un sens de l'humour et de la dérision qui a pris source sûrement dans les racines du mal, comme dirait Romain Gary, ou disons un terreau extrêmement dramatique. Mm-hmm. C'est peut-être ça plus.
Oui, il y a les deux, non? O sea, hay esta cosa de sobrevivencia y al mismo tiempo de humor negro muy fuerte sobre el mismo drama que estaban viviendo. Romain Gary justamente es uno de esos autores bulímicos sobrevivientes.
Oui, c'est vrai, c'est très juste. Mm-hmm. Non, c'est intéressant, je vais réfléchir à ça. Et on fera un autre débat demain sur... Mais je pense que, très honnêtement... Ah, c'est intéressant de réfléchir s'il y a une particularité par rapport à ce type de comment dire de.
Et surtout maintenant que tu écris un roman sur Auschwitz, ça me.
Oui, alors oui et non parce que moi c'est pas un roman du tout sur Auschwitz, hein. C'est un roman sur une artiste qui me fascine. Sur sa vie, sur sa jeunesse, sur sa folie, sur sa création, sur son histoire familiale qui est incroyable parce que c'est une histoire très morbide où toute sa famille est marquée par le suicide, toutes les femmes de sa famille se sont suicidées. Alors évidemment, son destin est indissociable de la Seconde Guerre mondiale, des années 30 en Allemagne et de l'idée que sa vie a été complètement, saccagée, son destin brisé par rapport à son époque. Et forcément, ça a impulsé son œuvre. Il y a beaucoup d'humour d'ailleurs, et de beauté, et de vie dans son humour. Mais pour moi, c'est presque... C'est pas ce qui m'intéresse le plus dans le sujet. Effectivement, c'est comme si tu me disais, tu as écrit un livre sur John Lennon parce qu'il a été assassiné. Tu vois ? Ce serait pareil. Et évidemment, l'assassinat de Lennon est tellement violent, tellement puissant, tellement marquant dans sa propre vie. Mais... quand nous parlons de John Lennon, il y a tant de choses à raconter. Elle, c'est une fascination artistique. Et aussi, c'est un personnage de roman. Je suis complètement obsédé par elle. J'ai été pendant les 8 dernières années, c'est-à-dire que tu me demandais tout à l'heure aussi comment j'écris, j'entremêle beaucoup les livres. C'est-à-dire que ce livre-là, je l'ai commencé à l'écrire entre chacun de mes livres. J'ai pris des notes depuis très longtemps. Je suis allé dans le sud de la France, je suis allé en Allemagne, j'ai fait des recherches. Je suis allé voir son école, partout où elle avait vécu. Et j'ai accumulé pendant longtemps ce livre que j'ai enfin réussi à faire maintenant. Je pense qu'on ne décide pas vraiment le temps de la création. Je sais que, bizarrement, pour moi, le livre qui a eu le plus de succès, c'est « La délicatesse ». Un succès très bizarre d'ailleurs, surprenant pour moi, c'était mon 8e livre. Et c'est un livre qui a été écrit le plus rapidement. J'ai eu le sentiment très étrange que le livre était déjà écrit avant que je commence à l'écrire. Je pense que tu dois ressentir ça, ou tous les écrivains doivent ressentir sur certains livres. Comme s'il y avait une anticipation du corps, voilà justement. Tout à l'heure, enfin, le sujet de « Je vais mieux », c'est la vie du corps. C'est finalement l'idée que le corps a une autonomie, une intelligence. Et donc, bizarrement, se mettre à écrire, c'est peut-être presque être en adéquation avec quelque chose qu'on a en soi, qui s'est formé malgré nous, qui s'est formé d'une manière silencieuse. Et qu'au moment où on commence le livre, parfois, c'est très bizarre de se dire « il est déjà là ». Je n'ai plus qu'à le retranscrire. C'est très facile, en fait, comme métier. Ça me fait penser à McCartney, parce qu'on parlait des Beatles. Tout le monde lui demande, mais comment avez-vous composé Yesterday ? Et il dit, ben, un matin, je me suis réveillé et j'avais la mélodie dans la tête.
C'est certo.
C'est aussi simple que ça.
Et la musique, ya la dejaste de lado o es una actividad que sigues teniendo? ¿De alguna manera influencia el hecho de ser músico tu escritura?
Oui, sûrement. Pour moi, ça a été un peu la même chose. Hein. Bon, d'abord, j'ai arrêté la musique parce que j'étais pas si bon que ça. Hein. J'étais même un peu mauvais, en fait, je crois. Je crois que maintenant, je peux le dire. Et en fait, c'est toujours le même thème. C'est-à-dire que j'ai ressenti en moi que ce n'était pas avec la musique que je devais m'exprimer, mais avec les mots. J'étais complètement focalisé par la musique, j'ai fait des études de musique, mais j'ai senti les mots ont pris davantage de place. Et donc forcément, à un moment donné, j'étais presque dans la même énergie. J'ai travaillé l'écriture comme je travaillais mon instrument. J'ai commencé à écrire tous les jours, sans savoir que écrire, par nécessité, des lettres, des histoires, des bouts de texte. Et j'avais un rapport à l'écriture qui était assez similaire finalement, c'est vrai, au rapport que j'avais pu avoir avec l'instrument. Et de toute façon, écrire, c'est musical. Il n'y a pas un seul écrivain qui est dans une énergie littéraire, je veux dire, qui n'est pas obsédé par la langue. Moi, j'adore raconter des histoires, mais ce qui m'intéresse, j'adore que le lecteur prenne du plaisir à lire une histoire. Mais ce qui m'obsède avant tout, c'est l'écriture. C'est qu'on aime ou qu'on n'aime pas mes livres, mais c'est que la nécessité que chaque auteur doit avoir une particularité, une langue. Mm-hmm. Et en ce sens, pour moi, c'est supérieur à tout.
¿Cómo es el hecho de después trabajar, no muchos escritores, muy poquitos de hecho, después hacen de sus novelas un guión para una película y la filman? Son pocos los escritores que han tenido esa experiencia. Me resulta muy interesante, me gustaría que nos hablaras de eso, traducir a otro lenguaje completamente distinto, a otro género, no solamente hablo del guión, tu historia, justamente después de haber trabajado tanto en las palabras y en el lenguaje escrito, ¿cómo es?
Oui, et en même temps, c'est une façon d'inventer à nouveau l'histoire. D'abord, moi, c'est quelque chose... je pourrais dire toujours la même réponse sur toutes les questions, c'est-à-dire que c'est quelque chose que j'ai ressenti physiquement. D'habitude, quand je finis un roman, j'ai envie de passer à autre chose. Et avant La Délicatesse, j'ai d'autres romans que des producteurs ont voulu acheter pour faire des films, et je voulais jamais m'en occuper. Mais quand j'ai fini La Délicatesse, j'ai senti que j'avais la nécessité, j'avais envie de rester avec mes personnages, j'avais envie de continuer à être avec eux. C'est un film que j'ai fait avec mon frère aussi, hein. Donc c'était aussi une belle histoire de familiale entre nous, et l'envie à un moment donné d'avoir une aventure collective. J'ai contacté ma chanteuse préférée pour faire la musique. J'ai rêvé d'Audrey Tautou, de filmer Audrey Tautou, et elle a dit oui. Ça a été assez... ça a été long, ça a été compliqué. Hein. C'est très très long de mettre en chantier un film. Mais j'avais le sentiment que cette histoire, j'avais envie de la raconter. J'avais envie d'être encore avec cette histoire. Et donc, ce qui m'a vraiment excité, moi, c'est de réinventer l'histoire. Dans le film, il y a beaucoup de choses qui ne sont pas dans le livre. Parce que j'ai tout fait pour garder la même atmosphère, la même délicatesse, la même fantaisie, mais d'une manière cinématographique. Et ce qui m'a intéressé, c'est ce travail-là, finalement. C'est de raconter la même histoire, mais d'une manière différente. Tout n'est pas réussi, d'ailleurs. J'ai raté, je pense, le début du film. Mais... et puis il y a aussi un truc qui est quand même assez incroyable... c'est d'être dans une salle et d'entendre les gens rire. C'est quelque chose que je ne peux pas vivre en tant qu'écrivain, quoi. À moins d'être derrière les lecteurs quand ils lisent le livre, mais... Et... Et en même temps, c'est problématique, parce que chaque lecteur, forcément, quand il lit un livre, se fait son propre film, compose ses propres images. Et donc, souvent, le film est jugé pas comme un film, pas comme une œuvre, mais comme ce qu'on pense de cette œuvre par rapport au livre. C'est ce qui est un peu compliqué dans les adaptations. Et donc, moi, j'ai d'autres livres. Par exemple, bah là, Je vais mieux, qui va devenir un film, et je ne veux pas le réaliser. J'ai un livre qui s'appelle Los Recuerdos, qui a été publié chez Sexbarral juste après La Délicatesse. C'est un film qui va devenir qui d'ailleurs, le tournage vient de se finir en France. J'ai refusé aussi de le réaliser.
Y escribiste el guion, dejarías tus novelas en manos de otro guionista?
Le réalisateur? Oui. Oui, alors oui, c'est ce que je fais pour les réalisateurs. Ce sont d'autres réalisateurs qui vont faire les adaptations. Mais maintenant, depuis La Délicatesse, c'est vrai que j'ai pris goût à travailler des adaptations. Mais pour moi, c'est pas du tout une fin en soi. C'est-à-dire que je suis même un peu surpris que les 3-4 derniers livres que j'ai écrits sont finalement très cinématographiques, dans le sens où ils sont réalistes et je raconte une histoire et donc ça peut devenir un film. Mais j'ai fait de nombreux livres qui n'étaient pas du tout réalistes ou qui n'étaient pas du tout cinématographiques. Et voilà, il se trouve que les derniers sont dans cette énergie-là, mais ce n'est pas pour moi du tout un objectif, pas du tout. Au contraire, je ne suis pas toujours sûr de la nécessité des adaptations.
Okay. Il y a un livre qui m'intrigue, je n'ai pas réussi à le trouver, il s'appelle « Qui se souvient de David Fuenquinos ?»
Oui.
Et l'idée que j'ai de ce livre, qui peut-être ne correspond pas du tout à la réalité, me fait penser encore à Romain Gary avec son pseudonyme Émile Ajar et à ce livre qui s'appelle Pseudo, mais aussi à la lettre qu'il a laissée avant de mourir, oui, qui s'appelle Vie et mort d'Émile Ajar. J'aimerais bien que vous nous parliez de ce livre.
C'est très intéressant. C'est un livre qui est, à mon avis, très raté, très conceptuel. Personne ne l'a compris. Même moi, je ne suis pas sûr de l'avoir compris. Mais c'est un livre que j'ai publié il y a quelques années, hein, qui n'a pas du tout eu de succès. C'est un livre qui s'appelle « Qui se souvient de David Fuenquinos ?» à un moment donné où personne ne me connaissait. Donc c'était complètement... Mais en fait, le personnage, c'est un écrivain qui s'appelle David Fuenquinos, mais qui n'est pas moi. Et en même temps, il a publié les livres que j'ai publiés. C'est là où je vous expliquais que c'était un peu conceptuel. Mais une fois qu'on a passé ça, c'était un roman sur l'histoire d'un homme écrivain qui n'avait plus d'idées. Et subitement, il avait une idée incroyable de roman. Malheureusement, il l'oubliait. Et donc, c'est l'histoire d'un écrivain qui va tout faire pour retrouver l'idée qu'il a oubliée. Et donc, il va aller chez le neurologue. Il lui dit, mais je ne comprends pas. Pourtant, les idées, en général, elles restent dans ma tête. Il lui dit, le neurologue lui dit, écoutez, monsieur Fuenquinos, vous avez trop d'informations dans votre tête. Il y a trop de choses. Donc c'est impossible que les idées puissent rester dans votre tête. Vous avez trop d'informations. Vous avez sûrement appris des choses qui sont inutiles. Et donc, monsieur Fuenquinos dit, avoue que dans sa jeunesse, il a appris le danois. Le neurologue l'engueule, lui dit, mais ça ne sert à rien d'apprendre le danois. Personne ne parle danois, c'est ridicule. Il lui dit, vous étiez sûrement amoureux d'une danoise. On n'apprend pas le danois si on n'est pas amoureux d'une danoise. Et en fait, non, il était amoureux d'une fille qui elle-même était amoureuse d'un danois. Donc en fait, la fille avait appris le danois par amour pour son danois. Et lui, il avait appris le danois par amour pour cette fille qui avait pris le danois par amour pour... Enfin bon, bref, c'est dire l'état mental de ce personnage, quoi. C'est un livre qui a été publié aussi en espagnol.
Chez les... qui?
Alors, chez l'éditeur que j'avais avant, avant Sex Barral, un petit éditeur, dont le nom m'échappe.
Bouquet, je crois, c'est ça?
Je crois qu'il y a un K, c'est Kiros ou... Pardon? Kairos? Non, je sais pas. Je suis désolé. J'ai des problèmes de mémoire.
Bon, ben, si vous êtes d'accord, je pense que ça serait temps de laisser la parole.
Oui, avec plaisir. Merci beaucoup, Guadalupe. Hein. Muchas gracias.
Merci.
Donc, si vous avez des questions avec...
Va passer el micrófono por ahí, por si quiere.
Avec plaisir. Hein. Ah, hola.
Bonjour David, bienvenue en Colombie.
Vous parlez français?
Je ne parle pas français, en fait je suis moitié colombienne, moitié française.
Ah, donc, c'est un mélange très intéressant.
Je comprends très bien la dualité que vous disiez au début, de la tête un petit peu française, compliquée, on se prend toujours un peu la tête à parler, à discuter, versus le corps, la salsa, Carlos Vives, dont vous...
Mademoiselle.
Vous êtes maintenant fan.
Ah oui, mais alors j'arrive pas à vous entendre parce qu'il y a un écho tellement.
Je pense que c'est à cause des gens qui parlent peut-être.
Ah oui, d'accord.
Donc en fait, je voulais. Bienvenue en Colombie.
Merci.
Et je voulais vous poser une question. Tout à fait, au début de la présentation, vous aviez dit qu'à l'âge de 16 ans, c'est ça? Vous aviez fait une opération au cœur, non?
Oui, oui, tout à fait.
D'accord. Ben, je voulais comprendre, en fait, les 16 ans, c'est un âge assez compliqué. Là, on a la puberté, on est un peu confondu sur son identité. Et en fait, une opération au cœur, c'est une des opérations les plus fortes qu'on puisse avoir. Donc, comment cette opération au cœur, dans un moment de bouleversement aussi, la relation avec vos parents, qui semble être un peu particulière, disons comme ça, comment ça vous a touché et comment, en fait... Peut-être c'est là que vous avez été la première fois illuminé, cette nécessité, cette boulimie de devoir écrire, peut-être a commencé à là juste après l'opération, je ne sais pas. Je voulais un petit peu de voir ce réveil.
Eh bien, c'est très très juste parce que c'est vrai que tout à l'heure j'ai esquissé ça. C'est vrai que ce n'est pas non plus un hasard que ça arrive à cet âge-là. D'ailleurs, je me suis rendu compte que beaucoup d'écrivains étaient malades à l'âge de 16 ans. Et vous regardez dans les biographies, c'est très très intéressant. J'allais dire une bêtise, donc je ne le dis pas. Moi, je vais vous dire très honnêtement, moi, je suis pas. Ça a été très très. Ça a été très très fort, parce que comment dire, je ne suis pas du tout issu d'un milieu littéraire. Il n'y avait pratiquement pas de livres chez moi. Je n'ai pas du tout lu de livres avant cette opération. Je n'étais pas du tout connecté avec le monde des sensations, quelque part. Et cette opération, avec la peur de la mort, les longs mois à l'hôpital, aussi j'ai eu quelques visions un peu étranges, c'est vrai que ça m'a rendu un peu mystique, mais dans des proportions extrêmement décentes. Hein. Mais je vais vous dire quelque chose, c'est que après cette... On est dans une... Non, c'est un couvent ici en plus. Hein. Après cette longue expérience, j'ai vu tout d'une manière différente. Et c'est-à-dire que j'avais un livre entre les mains, alors qu'avant ça a pesé des tonnes dans mes mains. J'ai commencé à entendre les mots, à être émerveillé par le style. Je me suis mis d'abord à faire de la peinture. J'ai été complètement excité par la peinture. C'est pas pour rien que 20 ans après, peut-être que j'ai écrit un livre sur une peintre. Et puis après, je me suis mis à faire de la musique. Et puis j'ai écrit beaucoup, progressivement, les mots. J'ai eu la nécessité de trouver de la densité à travers l'expression. Et puis le rapport à la sensualité, le rapport au monde, le rapport à la beauté, le rapport au musée, le rapport aux femmes aussi, a complètement changé. Voilà.
Allô, allô. Voilà.
Allô.
Je peux poser une autre question?
Oui.
C'est une question un peu coquine.
C'est quoi, coquine?
Une question un peu coquine. impertinente, si on peut.
Impertinente, ok.
Si le roman commence avec une personne qui a mal au dos, et tout à fait à travers son mal au dos, après il se rend compte qu'il a des tas de problèmes à devoir et qui doit réagir. Qu'est-ce que vous pensez alors d'un hypochondriaque qui a tout le temps mal à quelque chose?
Mais en quoi c'est coquin ça?
Ben non, c'est coquin.
Je m'attendais à un truc.
Non, on est en plein.
Non, mais elle est très douce hein, cette question. Mais du coup, je l'ai pas écoutée.
Ah, du coup, d'accord. Vous bouscule toute la vie. Qu'est-ce que vous pensez d'une personne qui est constamment...
Ah oui.
Et on connaît tous des personnes
vous savez,
qui
c'est,
ont constamment
c'est... On en connaît. Mais c'est étonnant parce que souvent, quand le livre est sorti en France, et beaucoup d'articles, beaucoup de rencontres que j'ai pu faire avec le public, tout le monde a décrété que cet homme était hypochondriaque, alors qu'il a véritablement mal au dos. Et donc, lui, il va faire d'un vrai mal un roman, alors que les hypochondriaques font des romans en permanence de ce qui n'existe pas. Et donc, je pense que lui, il doit chercher quelque part la raison. L'hypochondriaque, pour moi, c'est vraiment l'opposé. C'est peut-être parce qu'il n'y a pas suffisamment de raison ou d'excitation ou de choses ou de matière, finalement, à analyser, à creuser, qu'il va en permanence... créer cette stimulation un peu pathétique, hein, mais extrêmement réjouissante pour les autres. Le vrai problème des hypochondriaques, c'est que le jour où ils sont malades, c'est que personne ne les croit.
En effet, je pense qu'on en connaît tous. Bon, je laisse le microphone peut-être à quelqu'un d'autre.
Vous appelez comment?
Yassira.
Cassira?
Oui, c'est un nom guarani du Brésil.
D'accord.
Ça n'explique pas l'origine. Ma mère était passionnée de la musique brésilienne. Voilà. Merci.
Merci.
¿Hay alguna otra pregunta en la sala que hablen ahora o?
Non seulement vous vous êtes réveillé, éveillé grâce à cette opération du cœur. Mais que vous êtes un des rares Français qui ne se prend pas trop au sérieux. Félicitations, ça a été très, très agréable.
Je ne sais pas comment je dois l'apprendre parce que vous critiquez tous les Français, du coup.
Mais... Non, je suis Française.
Oui.
Je ne voudrais pas généraliser.
En tout cas, ça me fait vraiment plaisir.
C'est très agréable d'entendre un Français qui prend la chose avec un petit peu moins de... qui se prend moins au sérieux lui-même. C'est génial.
Ça me fait plaisir.
Oui.
Continuez
comme ça, monsieur.
Mais parce que c'est l'image que vous avez des Français, ça m'intéresse.
Non, mais je suis française.
Oui, non, mais j'ai compris.
Je les connais, je les ai dans la
moi,
moelle.
Je me dis pas que les Français, tiens, ils se prennent... Ah, mais peut-être que vous avez raison. Hein.
Ah.
Un peu?
Ah.
Ouais. Ah oui, beaucoup?
Ah oui. Merci.
Ben, merci en tout cas, c'est adorable. Eh ben voilà.
Bueno.
Eh bien, muchas gracias.
Sí.
Ah, ciao.
Ah. Gracias. Seguimos viendo aquí.
Et merci encore Guadeloupe. Hein.
Non, de rien.
Magnifique, hein. Très très intéressant.